Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
Et on retrouve donc Brigitte Faurou, pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Vous êtes toujours avec nous ?
Oui, tout à fait.
Ce sont trois chercheurs des universités de Tours et d'Orléans qui ont planché sur le sommeil de nos enfants à la demande du ministère de l'Éducation nationale. Leur rapport est mis en avant dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Il nous a intéressés. C'est pour ça qu'on a eu envie d'en parler avec vous et avec tous nos auditeurs au 3210. Il y a un constat qui est quand même assez inquiétant. Les nuits des petits sont de plus en plus courtes. Les enfants ont perdu près de 20 minutes de sommeil en 15 ans. Sur un siècle, pour les moins de 18 ans, c'est une heure en moins sous la couette. Alors, on va commencer par le béaba. Concrètement, un enfant a besoin de combien d'heures de sommeil pour être au top ?
Alors, normalement, la durée idéale d'un sommeil d'un enfant jusqu'à 12 ans, c'est 10 heures de sommeil par nuit. Et même chez les adolescents, entre 13 et 18 ans, il faudrait entre 9 et 10 heures de sommeil par nuit pour que l'enfant et une durée et à la fois également une qualité de sommeil optimale. Et c'est vrai qu'actuellement, on est loin du compte pour tout âge.
Alors, on est loin du compte, pourquoi ? Parce que la société a évolué, parce que les parents, par exemple, rentrent du travail plus tard et veulent profiter des enfants. Qu'est-ce qui fait que ça a terriblement baissé ?
Alors, je pense qu'il y a deux modifications sociétales majeures. C'est d'abord le travail des parents. Les parents ont tendance à rentrer plus tard du travail. Mmh. Souvent, ils travaillent également tous les deux. Ils ont envie de passer à juste titre du temps avec leurs enfants, ce qui fait qu'ils retardent l'heure du dîner, l'heure du coucher, et tout ça au détriment de la durée de sommeil qu'il faudrait à leurs enfants. Mmh. Deuxième élément majeur, c'est la présence d'objets connectés en permanence, y compris dans les chambres à coucher, avec la présence de télévision dans la chambre à coucher chez à peu près 20% des enfants, mais également les ordinateurs et les portables. Tous ces objets empêchent l'enfant de s'endormir et d'avoir une bonne qualité de sommeil. Il faudrait les proscrire absolument dans les chambres à coucher.
Mmh. Restez avec nous, professeur Faurou. Je vous présente Laurence, qui habite dans le Maine-et-Loire. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous avez 8 enfants à la maison de 4 à 18 ans.
Oui.
Alors, racontez-nous comment ça se passe. Vous avez tous les cas de figure, là.
Alors, en fait, j'ai les deux cas de figure parce que j'ai des enfants qui sont instruits à la maison, donc pour qui le rythme est plus calme. Mmh. Et puis, j'en ai d'autres qui sont scolarisés, pour qui le rythme est un petit peu plus intense en raison des conduites, en fait. Mmh. Donc, effectivement, les rythmes de vie évoluent. Et comme nous habitons à la campagne, nous sommes tributaires des horaires de bus, ce qui contraint, en fait, mes scolarisés à se lever relativement tôt.
C'est-à-dire
7h moins le quart,
C'est tout.
Pour pouvoir prendre son bus à 7h, enfin partir de la maison à 7h20 et prendre le bus à 7h35. Mmh. Et ensuite, ils ont quand même 30 à 40 minutes de trajet. Donc ça fait des grosses journées. Du coup, en fait, on compense en se couchant le moins tard possible.
Mmh. Voilà. C'est-à-dire, ce sont vos ados, j'imagine, qui.
Alors, j'ai collégiens, lycéens et fac.
Ouais.
J'en ai un qui est parti de la maison, mais les trois autres, donc effectivement, et en plus, quand même, ils auraient des cours plus tard, en fait, j'aligne tout le monde sur celui qui rentre le plus tôt, pas avoir trop de conduite à faire.
Ça veut dire quelle heure, Laurence ? À quelle heure vous les mettez au lit, en gros ?
Alors, ça veut dire dîner 19h, 19h15, les plus jeunes, donc mes primaires, éteignent à 20h30, donc en général, ils sont dans leur chambre, dans leur lit à 20h, pour pouvoir lire jusqu'à 20h30, parce que chez nous, il n'y a pas d'ordinateur et pas de télé dans les chambres. Et pour les plus... Mon collégien, c'est 21h au plus tard. Il doit avoir éteint. Et puis, lycéen, je le laisse un petit peu plus libre parce que ça dépend vraiment du travail qu'ils ont à fournir le soir. Mais en général, à 22h, tout le monde dort, y compris les plus âgés.
Alors là, c'est exemplaire, professeur Faurou.
Tout à fait. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il semble...
C'est la maman dont vous rêvez, là, Laurence.
En tout cas, ce qu'on constate, et quelque chose de tout à fait bénéfique, c'est la régularité. Ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les jours de semaine et le week-end, parce que quand il y a une dette de sommeil, à ce moment-là, l'enfant a tendance à dormir plus longtemps le week-end. Et ça traduit une dette de sommeil. Et ce n'est pas parce qu'on rattrape une nuit avec une grasse matinée, une nuit précédente qui a été plus courte, que l'on restaure en fait tous les problèmes liés à une insuffisance de durée de sommeil.
Ça veut dire, professeur, qu'il faut instaurer un espèce de rituel le soir
c'est
à la maison.
C'est fondamental, oui. Il y a une chronobiologie, il y a une sécrétion d'hormones, il y a toute une rythmicité de toutes nos fonctions qui se fait en fonction d'un rythme nycteméral, d'un rythme sur les 24 heures. Et c'est vrai que si l'organisme est en permanence perturbé, parce que entre les jours de semaine et les nuits de week-end, il y a une énorme différence, et bien l'organisme est complètement chamboulé.
Mais ça veut dire qu'il faut que les parents aient des horaires fixes aussi.
Il faut essayer d'avoir le plus possible des horaires identiques entre la semaine et le week-end. Alors c'est vrai que quand les parents travaillent, ce n'est pas toujours évident. Mais je pense qu'à ce moment-là, quand on est un couple avec deux parents, éventuellement, il y a un parent qui veille à ce que l'enfant se couche à l'heure habituelle et l'autre va faire un câlin, un coucou un peu plus tard. Enfin, qu'on arrive à se partager les tâches en fonction du travail respectif de chacun. Mais il faut essayer de respecter au mieux la régularité et ça va aider l'enfant aussi à s'endormir plus facilement et d'avoir aussi une qualité du sommeil qui sera bien meilleure.
Laurence, avec 8 enfants, il y a un sacré rituel à la maison, une sacrée organisation aussi, hein.
Oui, mais ça s'organise un peu en amont, je pense. C'est-à-dire que moi, je sais que quand arrive 18h, 18h15, et les enfants le savent normalement, c'est l'heure où l'on range déjà. On commence par ranger les chambres, avant les bains, pour les plus jeunes, et moi je prépare le dîner. Et donc en fait l'idée c'est quand même, sachant qu'entre deux je case un petit aller-retour au bus pour récupérer les autres. Mais toujours est-il qu'aux mêmes heures, on range, en fait c'est comme si on se mettait en condition pour la soirée, c'est-à-dire qu'on commence la soirée en rangeant sa chambre, parce qu'on ne peut pas s'endormir correctement dans un grand bazar. Et je pense que ça met déjà les enfants dans une autre phase, en fait, qui est on range, on se met en pyjama, on se lave, on se met en pyjama, on fait des jeux plus calmes dans la maison, on ne va plus jouer dehors, etc. Bon, alors évidemment, l'été, pendant les vacances, il y a beaucoup plus de liberté, oui. Parce que c'est les grandes vacances. Au contraire, je trouve que c'est sympa, pendant les grandes vacances, de casser un peu le rythme et de se sentir en vacances, justement, de faire les choses très différemment.
Mais le reste de l'année, on l'entend bien, et c'est aussi ce que nous dit le professeur Fauroux.
Exactement.
Pas d'improvisation, il faut garder des horaires fixes, et que rien ne déborde si on veut que
nos enfants soient en forme le lendemain. Nous, on reprend nos horaires progressivement fin août, quoi, une semaine avant la rentrée. J'impose de nouveau, petit à petit, des couchers plus réguliers, les heures de repas. Enfin, on retrouve, de manière à ne pas tout découvrir le jour de la rentrée, ça fait trop sinon.
Ça ne va pas rigoler à la maison, Laurence, hein. Vous tenez la boutique, vous, hein.
Bah, je sais pas, non, ça se fait très simplement, en fait.
C'est formidable, non,
bravo. C'est fait depuis qu'ils sont petits, en fait, on se pose pas tellement de questions.
Restez avec nous, Laurence, on a d'autres auditrices et auditeurs qui veulent prendre la parole, évidemment, sur ce sommeil qui manque aux petits et même aux plus grands. Vous témoignez, vous êtes les bienvenus, le 3210. Vous avez la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. C'est votre émission, vous le savez, à tout de suite.
Stéphane Carpentier.
Christelle Robière.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Nos enfants ne dorment pas assez. Ils ont perdu 40 minutes de sommeil en 30 ans et leur scolarité souvent s'en ressent. On en parle avec le professeur Fauroux, qui est pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Et nous avons Estelle qui nous appelle du Loiret. Bonjour Estelle.
Bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Parlez-nous de vos filles.
Merci. Eh bien, moi j'ai une fille de 12 ans et une autre de 7 ans. Et j'avoue que dès le départ, ça a été notre priorité, en fait. Parce que c'est super important pour moi que mes filles soient reposées pour profiter pleinement de leur journée et de tout ce qu'elles peuvent faire dans la journée. C'est un peu, il faut mettre tout en place, mais ça se passe très bien en fait. On a organisé les choses et elles sont complètement, elles adhèrent complètement.
Donc, vous arrivez à les coucher vers quelle heure ?
Alors moi, je veux absolument qu'elles dorment 10 heures par nuit, c'est le minimum. Donc en fait, on essaye de s'organiser de façon à ce qu'elle soit couchée entre le plus tard vers 20h. Et elle se lève le matin en général entre 7h et 7h30. Et donc elles sont couchées. Alors elles sont couchées entre 19h45 exactement, et lumière éteinte, 8h30, c'est sûr. Voilà. Et le matin, ça dépend de ce qu'elles ont comme horaire le matin, et de nous aussi, mais il y a une marge d'une demi-heure. Mais au moins, elles se reposent. Il n'y a pas d'écran, il n'y a rien du tout le soir, il n'y a pas de télé, il n'y a rien, ça les dérange pas du tout, franchement. Elles ont des bouquins, Elles adorent regarder des livres, lire les livres. Maintenant, la petite a 7 ans, donc elle lit maintenant. Elle s'installe tranquillement dans leur lit. Et j'entendais une auditrice qui disait que la chambre était rangée. Moi, c'est un petit peu la même chose parce que je trouve que voilà, c'est un endroit après où on se repose. Donc, on range avant. Et on est très organisé. Hein. Moi, dès que je rentre, parce que moi, je suis coiffeuse, donc j'ai pas des horaires toujours faciles.
Donc, vous fermez à 19h, ça veut dire ?
Alors, non, parce que moi, je suis dans un tout petit village. Donc, c'est super. Je suis seule. Donc, je travaille un petit peu comme je veux. Je travaille que 4 jours par semaine déjà. Donc, le mercredi est consacré à mes enfants. Et le samedi et le dimanche, c'est complètement consacré à nos enfants et à notre vie de famille. Ce qui, si bien qu'on rattrape tout ce temps-là, elles se sentent vraiment libres ces jours-là. Et ça se passe vraiment très bien, en fait.
Hein. Et Estelle, si elles n'ont pas les 10 heures minimum que vous leur demandez, qui sont bénéfiques, le résultat, ça donne
alors,
quoi ?
Ben justement, alors pour la grande, c'est catastrophique parce que cette grande, elle a toujours dormi beaucoup. C'est-à-dire qu'elle dort, elle, il lui faut 12 heures. Elle a 12 ans. Mais en général, si elle dort moins de 11 heures, elle est fatiguée. C'est clair, net et précis. La petite, elle a besoin de beaucoup moins de sommeil. Et c'est nous qui avons instauré ça. C'est une petite fille qu'on a adoptée. Donc, du coup, on l'a depuis 3 ans. Hein. Donc, elle a 7 ans maintenant. Elle est arrivée, elle avait 4 ans. Et donc, elle n'était pas du tout habituée comme ça. Elle était avec plein d'autres enfants. Enfin, voilà. Donc, on l'a mis un petit peu au rythme. Et maintenant, ça se passe super bien. Et elle, par contre, si elle dort moins de 10 heures... ça va pas. Alors elle, par contre, elle a énormément de problèmes de concentration à l'école et tout ça, hein, vraiment.
Professeur Foreau, est-ce qu'on peut adapter aussi ces nuits de sommeil aux enfants qui ont des besoins différents ?
Tout à fait. Alors on sait hein, qu'on est génétiquement programmé pour être un petit dormeur ou un grand dormeur. Et aussi pour être plutôt lève-tôt ou lève-tard. Hein, on n'est pas tous pareils.
Ouais.
Par contre, comme dit madame, ce qui est très important, c'est que même pour les petits dormeurs, il faut respecter et essayer d'obtenir quand même un nombre d'heures de sommeil minimal. Hein, donc là, on a eu quand même deux mamans qui étaient tout à fait exemplaires.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, c'est quand même assez idyllique, hein, professeur
voilà,
Foreau. Mais c'est quand même dans la vie en général, et bravo à Estelle et à Laurence, mais c'est pas toujours facile de convaincre son ado de se coucher tôt, même si c'est un gros dormeur.
Oui. Alors, il y a deux choses que je me permets de souligner qui sont intéressantes et très importantes, c'est le rituel.
Oui. Voilà.
C'est-à-dire que le rituel, l'enfant, il est rassuré par un rituel, une régularité dans les comportements, dans le déroulement de ses journées, etc.
Bien sûr, oui.
Et il n'y a rien de plus perturbant pour un enfant d'avoir des rythmes qui changent en permanence d'un jour à l'autre.
Mm-hmm.
Donc, le rituel est quelque chose qui va l'aider et qui va le rassurer. Autre chose aussi, c'est que le lit et la chambre, normalement, c'est que pour le sommeil. C'est pas pour manger, c'est pas pour jouer, c'est pas pour regarder la télévision, c'est un endroit où on dort. Hein. À la limite, comme on dit madame, on lit un livre hein, qui peut servir de transition pour l'endormissement, mais le lit, c'est pas un endroit dans lequel on vit, et ça, c'est quelque chose de très important pour les adolescents qui considèrent leur lit comme leur espace à vivre.
Oui, vous parlez de mes ados, là, peut-être, professeur.
Tout à fait. Oui, mais il suffit d'instaurer quelque chose de différent, parce qu'avec la grande, elle nous rejoint souvent. Bon, quand il y a pas de quand on est en vacances, par exemple, elle est très souvent avec nous finalement. On est souvent ensemble. Elles ont pas trop de besoins dans leur chambre. Elles jouent bien sûr dans leur chambre, mais elles s'isolent pas tant que ça. La grande, hein. Elle a 12 ans. Elle est très mature déjà à 12 ans, mais elle s'isole vraiment très peu, je trouve. Donc c'est peut-être quelque chose. C'est peut-être à nous de travailler là-dessus justement pour qu'ils soient bien avec nous. Alors ça veut pas dire qu'on fait des choses toujours ensemble quand on est dans la même pièce, mais elles sont pas toujours obligatoirement dans leur chambre, donc c'est peut-être aussi ça qui fait qu'elles prennent pas leur chambre pour leur maison et où elles font tout dedans, peut-être, je sais pas.
Véronique nous rejoint de Versailles au 3210. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour,
moi je me suis souvenue de la préhistoire de mon enfance et nos parents avaient un outil extrêmement pratique, c'est-à-dire qu'on dînait et je vous ai un peu coupé la parole, non ?
Non, vous allez-y, allez-y.
Pardon.
Vous êtes chez vous, hein ?
Oui, non, pas quand même. Bon, bref, à 19h, il y avait la fameuse émission Bonne nuit les petits avec Nicolas et Pimprenel et le marchand de sable qui passait. Donc, il n'était pas question de les louper déjà. Il n'était pas question de désobéir. C'est-à-dire que juste après cette petite émission qui était à 19h, 19h15, on allait se coucher, mais direct. Et je pense que c'était un outil génial pour nos parents parce qu'on ne discutait pas, c'était comme ça. Et il devait se passer des sacrées soirées, eux, bien tranquilles, avec les enfants au lit à 19h15.
Non, mais j'ai connu ça aussi, Véronique. Moi aussi, pour moi aussi, le marchand de sable est passé à cette heure-là, Véronique.
Et on obéissait, hein.
Mais
on y allait.
Oh, oui, on n'avait pas trop le choix. Professeur Fourou, une fois de plus, c'est une histoire de rituel.
Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc c'est ça, en fait, il faut instaurer un rituel qu'on trouve ce que l'on veut aujourd'hui, mais il faut qu'à la maison, il y a un accompagnement de ce moment-là.
Oui, il faut que le cerveau, tout l'organisme se prépare à s'endormir dans la quiétude. Hein. Mmh. Et par exemple, prendre le bain, se brosser les dents, faire sa toilette, mettre son pyjama, lire une petite histoire, mais une seule, pas cinq ou six, avec papa ou maman, tranquillement dans un fauteuil, et bien à ce moment-là, pour l'enfant, il n'y a aucun problème. Il sait que c'est à la fin de ce rituel qu'il va se coucher et il aura aussi beaucoup plus de facilité pour s'endormir.
Merci professeur Brigitte Fourou, pneumopédiatre à l'hôpital Necker à Paris, de nous avoir accompagnés justement, et les auditrices qui ont pris la parole, Laurence, Estelle, Véronique, on vous souhaite que des belles choses. On va parler voiture dans un instant et l'horizon pour l'électrique, est-ce que ce sera notre avenir en termes de 4 roues? Renault, Nissan, Mitsubishi, le géant a annoncé justement 12 nouveaux modèles d'ici à 2022. Est-ce qu'on va se tourner de plus en plus vers l'électrique? On va vous écouter au 3210, vous allez cliquer pour nous donner vos sentiments sur la page Facebook RTL, les auditeurs auront la parole, et sur le fameux compte Twitter RTL Midi. On est avec Christophe Bourou, notre spécialiste, juste derrière ça.
Bonne nuit, les enfants.
Les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
Avant de parler voiture électrique et parler voiture tout court avec Christophe Bourou et avec vous les auditeurs au 3210, un petit détour par le tennis sur la terre battue lilloise, demi-finale de Coupe Davis. Isabelle Langer, le premier simple.
Diesel, notre ami Lucas Pouille, double break pour Dusan Lajović qui mène 4 jeux à 1, service à suivre après 20 minutes de jeu, ça part mal pour les Français.
Allez, on suit tout cela avec vous Isabelle, cette demi-finale de la Coupe Davis en direct sur RTL.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Robière.
Stéphane Carpentier.
L'électrique est-il l'avenir de nos voitures? Christophe Bourou, notre spécialiste auto ici à RTL, nous a rejoint de nouveau en studio. Rebonjour.
Rebonjour.
On en parlait tout à l'heure dans le journal, le groupe Renault a annoncé ce matin 12 nouveaux modèles de véhicules d'ici à 6 ans, des véhicules 100% électriques. Ce sont d'ailleurs les électriques qui sont les stars du salon automobile de Francfort en ce moment. C'est une déferlante, Christophe. Alors, question, est-ce qu'il faut vraiment se laisser tenter?
Alors, j'ai envie de vous dire, cela dépend de votre usage. Si vous roulez uniquement en centre-ville, oui, mais si vous êtes un gros rouleur et vous faites des milliers de kilomètres, non. Il y a pas mal d'avantages, hein. Je pense que nos auditeurs vont en parler, mais 2 euros pour 100 km, le plein, c'est quand même pas mal. Vous pouvez rouler tous les jours, les jours de pic de pollution. Il y a des ristournes, voire la gratuité pour la carte grise selon les régions. Les frais d'entretien sont réduits, ça c'est pas mal. Il n'y a pas de filtre de vidange à effectuer, même si les pneus s'usent plus vite. Et puis une prime à l'achat qui peut grimper à 10 000 euros. En revanche, il y a toujours 2 gros freins. L'autonomie, pour un Paris-Marseille, c'est compliqué, à moins de s'arrêter souvent. L'autonomie est entre 150 et 200 km pour une voiture électrique, avec un temps de recharge qui est quand même assez long.
C'est-à-dire combien?
Il faut compter 8 heures chez soi, et puis sur une borne de recharge rapide, c'est une demi-heure, mais 80% ouais, de capacité de la batterie seulement.
Ouais. Encore faut-il trouver la borne.
Et oui, il n'y en a que 16 000 en France pour l'instant. Et puis le prix, ça reste quand même bonbon, avec notamment le prix des batteries, parce que ces batteries-là, on les loue plutôt que de les acheter. Et le prix de revient d'une batterie, d'une location, c'est entre 60 et 80 euros par mois, c'est-à-dire le prix finalement de ce qu'on pourrait consommer avec une petite citadine en carburant.
Alors on va dialoguer avec les auditeurs évidemment sur ces voitures électriques, est-ce que c'est l'avenir ou pas, est-ce que vous y croyez? Sur RTL.fr, question du jour, vous répondiez tout à l'heure non à 53%. Richard nous rejoint depuis la Seine-Saint-Denis au 3210. Bonjour Richard.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir.
Bonjour.
Richard. Pour ou plutôt réticent?
Alors, c'est pas que je sois pour réticent, je trouve que c'est très très bien. Il y a des modèles qui sont présents maintenant sur le marché qui sont vraiment intéressants. C'est tout simplement que la voiture électrique telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui, on parle bien de voiture électrique, on parle pas de voiture hybride, j'y crois pas pour 3 raisons. C'est d'abord, je rejoins aussi Christophe sur ce qu'il a dit sur l'autonomie. Quand on regarde les chiffres de Tesla sur les autonomies des recharges rapides, Tesla c'est quand même le constructeur qui est le plus abouti en termes de voiture électrique. Oui. On nous annonce quand même une demi-heure en charge très rapide et pour 270 km d'autonomie. Donc effectivement, sur un Paris-Marseille, encore les chiffres qui sont donnés ne tiennent pas compte d'une voiture qui tracterait par exemple une caravane. Donc on n'a aucun chiffre là-dessus. La deuxième raison, c'est qu'on est aussi sur une période actuellement de transition énergétique. Donc on ne sait pas demain l'électricité, comment elle va être véritablement produite. Et quand on voit à l'heure actuelle que, par exemple, en Bretagne, quand il y a des pics de froid, on commence à dire à nos amis bretons qu'il ne faut plus trop chauffer parce qu'on va être en rupture d'électricité, vous imaginez, c'est derrière, chacun va brancher sa Tesla. Donc voilà, c'est vraiment les gros arguments qui font que la voiture électrique, j'y crois pas. Puis, enfin, c'est pas que j'y crois pas, pour moi, c'est une transition. Et en plus, quand on regarde l'impact, il y a plusieurs études qui ont été faites. Quand on regarde l'impact écologique de la voiture électrique avec les batteries sont très polluantes à produire et elles ne se recyclent pas.
C'est vrai,
et ça, c'est un gros, gros produit. Ça a même été abordé dans votre émission et ça a été abordé au Salon de Francfort.
Oui, par Carlos Tavares, le patron de PSA, quand même, ce qui est pas
mal. Qui disait, attention, est-ce qu'on n'est pas en train de se lancer dans une solution qui ne sera pas la bonne solution, qu'on va regretter, enfin nous, qu'on va regretter dans 20 ans, dans 30 ans. Et le dernier point, effectivement, l'électrique, c'est super, mais quand on regarde Tesla, pour arriver où il est aujourd'hui, c'est-à-dire leader, il a perdu des centaines de millions d'euros. Il en est simplement au deuxième trimestre de production positive, il commence seulement à gagner des sous, et il faut encore qu'il progresse. Il faut encore qu'il progresse pour rendre la technologie accessible et la technologie efficace sur des longs parcours. Même BMW aujourd'hui ne le fait pas, puisque l'i3, il a annoncé, l'i3 c'est devenu une voiture qui est hybride et il y a plusieurs tests qui ont été faits et le moteur prend le relais rapidement si vous l'utilisez, tous les éléments de confort qu'on a maintenant dans une voiture et qui sont demandés par les utilisateurs.
Mais alors pourquoi Renault annonce 12 modèles électriques? Richard, allez-y, parce que vous avez l'air de très très bien connaître le secteur.
Ah non, je ne connais pas, je m'intéresse, c'est tout. Bah, ils annoncent 12 modèles électriques parce que de toute façon, il y a un épouvantail qui est mis devant tous les constructeurs automobiles. On est bien obligé aujourd'hui de se tourner vers demain et de voir ce qui sera demain. Aujourd'hui, ce qui est vraiment développé, c'est l'électrique. Les moteurs électriques sont développés depuis très 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 longtemps sur les voitures. Les premières voitures électriques, elles faisaient sourire tout le monde. C'était des espèces de golfettes.
Oui, mais vous avez l'air de nous dire, Richard, que l'avenir, c'est plus l'hybride que l'électrique pur.
Honnêtement, l'avenir, pour moi, c'est l'hydrogène. Voiture non polluante.
On demande à Christophe ce qu'il en pense.
Je suis d'accord avec lui. Moi, je pense qu'en fait, il n'y aura pas une solution. Le problème, c'est que les politiques actuellement nous font croire qu'il y aura deux solutions, c'est-à-dire qu'en gros, il y aura les thermiques qui vont un petit peu rester et puis l'électrique. En fait, il y aura plusieurs solutions qui vont s'adapter aux besoins de chacun. Et l'électrique, ça correspond à un besoin qui est dans les centres-villes. Mais si vous habitez en dehors des centres-villes, non, là, c'est l'hybride. C'est-à-dire que, par exemple, vous roulez à campagne, et puis après, vous allez travailler en centre-ville, ça, c'est parfait. Mais l'électrique pure toute seule, non, ça, j'y crois pas. Ça sera une partie des ventes, mais pas entièrement.
Christophe Bourreau qui nous accompagne dans Autoradio, et on se penche sur les voitures électriques. Est-ce qu'il y a de l'avenir en la matière? On a écouté Richard très longuement, et on le salue. Il peut rester avec nous, puisque Vincent va prendre la parole dans un instant depuis Tours. Lui, il a deux voitures électriques, donc son expérience, son vécu, juste derrière ça, et vos appels, vos témoignages au 3210.
Stéphane Carpentier,
Christelle Rebière,
les auditeurs ont la parole dans RTL Midi.
La voiture électrique est-elle l'avenir? C'est la question du jour sur RTL.fr. Vous êtes 53% à nous dire non, 39% à penser le contraire. On en parle aussi au 3210 et sur la page Facebook, notre page, les auditeurs ont la parole.
C'est bien ça. Eh bien, c'est oui, mais à plusieurs conditions pour Valentin. Seulement quand ces véhicules auront une autonomie suffisante et le plus possible de stations de recharge. Aline s'interroge, il faut m'expliquer. Certains veulent supprimer les centrales nucléaires et en même temps, ces mêmes personnes nous affirment que les voitures électriques sont l'avenir. C'est un énorme non-sens. Pour Lordan, c'est non aussi à cause de la batterie qui n'est en rien écologique. Mais Sophie, sur la page Facebook, milite pour la voiture électrique à 100%. Cependant, nous dit-elle, j'ai une crainte, je suis non-voyante et je trouve ces voitures trop silencieuses. Les constructeurs devraient se soucier de cet aspect car cela risque d'être très dangereux.
Alors, ça, Christophe. C'est vrai, Christophe. Il s'en occupe. Hein. D'ailleurs, c'est venu des États-Unis avec les non-voyants qui ont porté plainte. Et maintenant, tous les constructeurs rajoutent des bruits sur les voitures électriques. Alors des fois, c'est une espèce de petite soucoupe volante, le bruit bzzz. Mais en tout cas, maintenant, c'est la norme. Bon, et heureusement, parce qu'effectivement, quand on fait des manœuvres, on n'entend absolument pas.
Vincent nous rejoint depuis Tours, comme promis. Bonjour à vous, Vincent.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, deux voitures électriques, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. J'ai une Zoé depuis 4 ans et demi. Oui. Et une Tesla Model S depuis 18 mois.
Alors, vous êtes totalement converti.
Oui, totalement.
Vous roulez beaucoup?
30 000 km par véhicule.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Zoé, ancienne génération, hein, c'est-à-dire avec une autonomie plus réduite.
Oui, mais ça suffit pour le quotidien, pour aller travailler. Ma femme, elle l'utilise, elle fait 50 km, elle revient, elle rentre à la maison. Et on charge la voiture le soir ou dans la nuit.
Et la Tesla ?
Et la Tesla, bah, c'est pour voyager. Moi, je l'utilise pour mon travail et pour voyager en famille. On est 5. Et c'est impeccable pour voyager.
Vous traversez toute la France ?
Ah, bien sûr.
Et comment vous faites pour recharger alors ? Parce qu'on en parlait tout à l'heure. Allez. L'autonomie, c'est combien ?
Super rechargeur pour Tesla. C'est-à-dire qu'elle est
Tesla, c'est 300 km vitesse autoroute, minimum. Moi, j'ai un modèle de base. Les plus gros modèles, ils sont à 450 km.
D'accord.
Donc, vous voyez, vous pouvez faire un Paris-Marseille, vous arrêtez deux fois. Donc, on s'arrête pas en déjeuner. Surtout quand vous avez des enfants. Vous faites 2 à 3 heures de route suivant les conditions. Vous faites votre pause, vous mangez, vous détendez les enfants, la voiture charge, vous repartez.
Vous faites vous trouvez arrêts, des bornes vous avez... facilement ?
Bah oui, Tesla a développé des superchargeurs sur tout le territoire.
Voilà, ça c'est Tesla.
À partir de la fin de l'année, Tesla, vous pouvez traverser l'Europe du sud au nord ou d'est en ouest.
Christophe.
Tesla a eu l'intelligence de développer le réseau de recharge en même temps que la vente de ses véhicules.
Non mais c'est vrai, mais ça concerne Tesla, donc très peu de véhicules. Mais pour le plus grand nombre...
Très peu de véhicules, mais Tesla va sortir la Model 3, qui va être abordable pour un très grand nombre à partir de l'année prochaine. Alors, elle arrive en Europe l'année prochaine.
On est quand même à 45 000 euros. Voilà, parce que abordable, c'est 45 000 euros.
Ouais, la Tesla...
Non, 35 000, elle sera à base 35 000. Oui, mais
c'est très cher.
Ce que les gens n'ont pas compris, c'est comme il n'y a pas d'entretien sur un véhicule électrique et qu'il n'y a pas de frais de carburant, sur le temps, un véhicule électrique est nettement moins cher qu'un véhicule thermique.
Alors, il faut rouler beaucoup, c'est ça le paradoxe. Il ne faut pas le faire pour des petits trajets.
Le beaucoup, c'est à partir de 20 000. Autre chose que vous ne parlez pas, c'est que le gain écologique est énorme.
Christophe.
Vous ne répandez plus de particules, vous n'avez plus de pollution odorante, vous n'avez plus de pollution sonore, vous n'avez plus de pollution pour les poumons.
Oui, il y a quand même un problème de batterie.
C'est un gain économique énorme pour toutes les villes. Non, mais c'est un modèle de société. Soit vous les préférez rendre les gens malades et on dépense des millions d'euros pour les soigner, ou on ne rend plus les gens malades et on investit sur la transition avec des batteries et de l'énergie renouvelable qui alimente ces batteries.
Christophe.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas du tout expliqué.
Vincent a raison, simplement, il y a aussi, c'est pas 100% vertueux, et puis il y a aussi tous les frottements dus aux plaquettes de frein qui sont aussi émettrices de pas mal de particules dans l'air.
Voilà, merci Vincent, vous êtes pro-électrique, on l'a bien entendu. Merci de nous avoir fait partager tout cela depuis Tours. On a Christiane qui nous rejoint, auditrice du Val d'Oise. Bonjour et bienvenue Christiane.
Bonjour l'équipe.
Bonjour, convertie. Bonjour. Vous aussi ?
Oui, convertie depuis 1 an et demi. Je suis passée d'un Espace diesel à une Nissan Leaf modèle 2016.
La Nissan Leaf qui est la voiture la plus vendue au monde, voiture électrique. Hein.
Mm-hmm. Exactement. En fait, je m'y intéressais beaucoup plus de par mon travail, les missions que j'avais, qui étaient de la gestion d'un parc de véhicules. Donc j'ai eu la chance d'essayer tous les véhicules électriques qui étaient sortis en 2012. Faire des comparaisons avec des hybrides, des thermiques, etc. Et puis, déjà à l'époque, la Nissan, pour moi, remportait un petit peu la palme. Parce qu'en plus, voilà, tous les matériaux sont récupérés, c'est du recyclage. Donc voilà, c'était aussi très important. Il y a 1 an et demi, ben, on s'est lancé. Et puis, bah, super, parce que c'est une conduite hyper confortable. C'est puissant, entre guillemets, c'est que ça répond. Les passages de vitesse se font tout seul, c'est en boîte automatique. Il y a du répondant et en même temps, c'est une conduite qui est hyper agréable. L'autonomie, bon, c'est 250 km officiels, en réalité 220, parce qu'il faut décoter à peu près 30, quels que soient les modèles. Et voilà, moi je fais 130 km par jour aller-retour pour aller travailler.
Et vous la branchez tous les soirs?
Et je la branche tous les soirs à une borne. Alors initialement, pendant un mois, on fonctionnait avec une prise domestique. Effectivement, on était sur entre 8 et 10 heures de charge. Et puis on a installé une borne avec une prise en charge partielle du constructeur. Et on charge à peu près 6 heures, 5 heures, je recharge. C'est-à-dire que le matin, je pars avec 200, 210 km d'autonomie. Parce que tout dépend de la conduite des 24-48 heures, c'est un calcul complexe. Et puis le soir, on vient entre 35 et 40 km/h. Voilà,
toute contente en tous les cas, vous êtes ravie et génial, c'est le mot qu'on retiendra de cette séquence consacrée à l'électrique et aux voitures électriques. Merci à vous Christophe Bourreau.
Merci.
Tous les vendredis à 13h30, on parle voiture avec vous. Vous pouvez prolonger le débat évidemment sur notre page RTL Facebook. Les auditeurs ont la parole, je leur mets dans le bon sens, c'est Facebook, RTL, les auditeurs
comme
ont
moi,
la parole.
Comme moi, on a un peu de mal.
Non, pas du
ça
tout.
Ça va venir.
Faut pas le dire. Laurent Gérard
arrive bien sûr, et à 14h la curiosité avec Sidonie et Thomas. Thomas, bonjour.
Bonjour à tous les deux. Moi je roule en hybride et ça fait deux jours que je viens à vélo à RTL, donc je suis très fier, je le dis aux auditeurs. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre cabinet de curiosité aujourd'hui? J'ouvre un tiroir et je trouve les secrets, les coulisses du palais de l'Élysée à l'occasion des journées du patrimoine. Tiens, par exemple, vous ne pouvez pas imaginer ce que Jacques Chirac faisait sur le perron les soirs de son anniversaire. Ça, vraiment, il ne faut pas louper cette anecdote tout à l'heure. Et puis,
je ne saurais attendre.
Un autre tiroir, l'histoire du groupe Téléphone, juste avant les deux concerts des Insus au Stade de France. Avec notamment, on va se concentrer sur l'année 86, l'année où le groupe implose.
Ben merci Thomas, à tout à l'heure, 14h.